Je dirais simplement de Maïlys Ekerengal que le souci du collectif, le sens de nous, très clairement traverse et même au cœur de ses derniers romans de façon manifeste. Et tu as choisi d'intituler ton intervention présente « Je et nous, la double hélice du roman ». Des colons.
Il y a la table du banquet. Cette table, elle s'est agrandie à mesure que l'on rejointe les convives, elle s'est élargie, elle s'est allongée, reconfigurée aussi au fil des jours, au fil des nuits, à mesure que les livres y ont été déposés, que les paroles y ont été énoncées, que l'échange y a abondé, et elle est devenue, cette table, un lieu. Son périmètre est devenu notre lieu, elle nous réunit, elle nous rassemble. On pourrait même dire, elle nous focalise. Je la visualise, cette table, elle est jonchée de livres. Et je me dis, évidemment, en la voyant, en me la représentant, la littérature instaure, a instauré, instaurera cet espace que nous occupons ensemble, à moins que, dans un mouvement collectif, ce soit notre occupation, notre faim qui fasse advenir la table. Mais le fait est que je nous y vois, cette table. Il me semble qu'elle fabrique en continu ce nous, l'ici et maintenant d'un nous qui s'active, d'un nous activé, d'un nous mis en branle, d'un nous ébranlé. Parmi ces livres, aujourd'hui devant vous, je vais envisager des fictions. Les fictions littéraires. Ces fictions, nous nous en saisissons car nous avons toujours faim de fiction, de romans, de nouvelles, et que ces textes que nous partageons, nous avons le sentiment, en les lisant, qu'ils opèrent eux aussi comme de petites tables de banquet, qu'ils sont chacun des lieux possibles d'un mouvement commun, qu'un « nous » les rallie pour y prendre la parole. Pour autant, ce nous interroge, on se dit vraiment, qu'est-ce que c'est que ce nous? Alors c'est nous, qui est-il? Et ce sentiment-là, je voudrais l'explorer. Je voudrais voir, je voudrais déplier cette idée de ce nous, comment il opère et ce qu'il recouvre. Qu'est-ce que ce sentiment du nous? Et voir comment la fiction littéraire a la capacité de faire naître ou non un nous, comment la fiction littéraire a la capacité de fabriquer un espace commun, d'instaurer la table, comment et à quelles conditions la fiction littéraire, avec les atouts, voire les armes qui sont les siennes, avec l'intelligibilité qui est la sienne pour filtrer le réel, l'intelligibilité qui lui est propre, comment peut-elle créer un lieu où s'actualiserait le commun, lieu du surgissement d'un nous dont on a vu, au travers des propos de Jean-Christophe Bailly, qu'il a tenu ici, qu'il s'agissait de ce pronom instable, au contour indéfini, un nous indéterminé, inquantifiable. Il disait ce nous qui ne nous entoure pas. Donc, la fiction littéraire, en tant qu'elle est en premier lieu une expérience du langage et l'élaboration d'une forme, peut-elle faire ce saut du jeu de l'auteur au nous de la communauté? Et si je me pose cette question, si je cherche à la déplier, c'est qu'il me semble au contraire dans un premier temps qu'elle ne mette en rapport que des jeux. Oui, je dirais même que la littérature s'instaure d'abord comme le lieu du jeu. Je me la représente comme étant d'abord un hymne à ce jeu, comme ce qui célèbre ce jeu qui est d'abord celui de l'auteur, qui est ce jeu qui prend la parole. La fiction littéraire pourrait même être envisagée comme le lieu du processus, comme le lieu de l'opération qui le fait advenir. Ce jeu qui le révèle, qui le dévoile, qui le réinvente, qui l'instaure, qui le fonde dans l'espace-temps de l'écriture. et peut-être même tout cela ensemble, puisqu'elle se tient dans ce qui lui est le plus propre, inaliénable, irréductible, dans ce qui le rend le plus identifiable aussi, ce jeu, c'est sa langue, sa parole. Alors selon moi, c'est très prosaïquement, d'abord, dans une pratique de la grammaire, dans l'élaboration de son lexique, dans la physique de sa phrase, dans sa scansion. C'est plus imperceptiblement dans son tremblement intime et dans tout ce qui se trame entre les mots, la matière silencieuse qui s'en échappe, débouclant un hors-champ du texte, un espace qui est son dehors, qui est l'inconnu de son équation. Et c'est enfin, mais pas encore seulement, un usage de la ponctuation, en tant que la ponctuation est, selon moi, mais pas seulement selon moi, l'inscription du corps de l'auteur dans sa langue. C'est sa part inaliénable. La ponctuation, c'est en quelque sorte le corps du roi. « Je » est donc résorbé tout entier dans ce que l'on pourrait définir comme son style, mais que je préfère nommer, moi, sa voix, car je trouve que le terme de voix reconduit l'organique des cordes vocales, la tessiture et ses qualités. Il fait signe à un tempérament, il désigne le clair et le sombre, le brillant, le voilé. Il reconduit tout ce qui fait signe au corps, tout ce qui convoque la mémoire sédimentée en strates qui s'y dépose au fil du temps. Donc la fiction littéraire m'apparaît d'emblée comme le théâtre de ce jeu. Elle est sa scène, elle est son plateau. Elle l'est encore par l'imaginaire qui s'y déploie, par les synesthésies qui s'y opèrent, autrement dit par la capacité qu'a ce jeu à associer entre eux deux ou plusieurs sens. On voit des odeurs, on entend des sons, on touche des couleurs. Car l'écriture de fiction est une forme de synesthésie et à mon sens, écrire revient toujours à halluciner un texte, hein, à activer des perceptions qui permettent d'halluciner un texte. Et donc par la capacité qu'a ce jeu à engager des perceptions dans leur dimension d'action, ce qui fonde la pratique littéraire sur l'idée, pour moi essentielle et fondamentale, d'une mise en expérience de ce jeu. La fiction, l'écriture de la fiction est une mise en expérience de ce jeu. Ainsi, le texte littéraire et la fiction me semblent jouer comme une mobilisation générale du jeu, mobilisation de sa mémoire, mobilisation de son corps. Et c'est un jeu irréductible, éclatant, parfois expansif, hégémonique, obsessif. C'est ce jeu qui, avant tout, prend la parole en tant que sujet, donc pas encore de nous ici, pas du tout, au contraire. Si ce jeu n'existe, ce n'est que parce qu'il fait sécession du nous, que parce qu'il s'en arrache, que parce qu'il se retranche, que parce qu'il se met en exergue, seul aux yeux du monde, parce que précisément, cette parole, il la prend aux yeux du monde. Et alors c'est là que tout bascule, parce que rentre en jeu un autre jeu, qui est celui du lecteur. Le jeu du lecteur, c'est lui les yeux du monde. C'est ce jeu qui actualise le texte, qui le fait exister. Il est là comme un autre, comme l'autre contractant du pacte littéraire. Il est cette autre présence logée dans les plis de toute fiction. Cette altérité-là, elle aussi est également irréductible, inaliénable. Il me semble qu'elle est induite par le geste même d'écrire. Elle s'y raccorde. La fiction n'existant pas ailleurs que dans le regard de cet autre, de cette altérité, et plus encore que dans son regard, dans sa croyance, puisqu'elle exige qu'on y croit, puisqu'il faut y croire. C'est aussi simple que ça, et en même temps, je pense souvent que c'est aussi fou que ça. La fiction exige la croyance, l'hospitalité, la disponibilité, et elle désire l'empathie. Jean-Claude Milner l'a dit extrêmement simplement, hier, aucune langue ne s'élabore de soi à soi, dans le seul à seul. Et plus tard, il ajoutait, lire est une prise de parole. Et je poursuivrai volontiers, lire est une création, c'est également une synesthésie, et de même, c'est une expérience du langage qui convoque ma mémoire et mon corps. Donc, cette altérité fondamentale qui s'inscrit dans le texte, et là, je voudrais préciser tout de suite cette chose très importante, que pour moi, cette altérité fondamentale, c'est ce jeu du lecteur qui se met en présence face au jeu de l'auteur, ce jeu du lecteur n'a pas de profil. Il ne fait pas l'objet d'un typage particulier dans le texte littéraire. Il ne fait pas l'objet d'un typage sociologique ou psychologique. La littérature ne saurait s'écrire pour faire signe à un lecteur envisagé selon des critères qui préexisteraient au texte. Elle ne saurait s'écrire pour faire signe à un lecteur dont le typage commanderait son amorce. La littérature, c'est en cela même qu'elle se distingue de tout catéchisme, de toute propagande, de tout langage raccordé au marché, de tout marketing. La littérature ne vise pas de communautés constituées d'avance. Elle ne vise pas de communautés de lecteurs constituées par avance. D'ailleurs, la littérature ne vise pas au sens où le lecteur n'est pas une cible. Et le fait est qu'avant le texte littéraire, le lecteur n'a simplement pas d'existence. Il n'existe pas. C'est le texte littéraire, c'est la fiction qui le fait exister comme son autre, comme cet autre qui lui manque pour exister. Donc, c'est un petit peu une affaire de calcul. Il y a le jeu de l'auteur plus le jeu du lecteur, soit deux jeux plongés dans cette même expérience du langage qui est la littérature, qui est la fiction littéraire. Mais cela suffit-il pour créer un « nous » ? Ne s'agit-il pas toujours d'un « 1 plus 1 » soit une addition qui s'opérerait sous la forme d'un choc, d'une rencontre dans le pur présent de cette rencontre, sans pour autant faire signe à une communauté. Et cette fiction littéraire, ressaisie, partagée par de multiples lecteurs, peut-elle faire advenir autre chose que du 1 plus, j'ouvre la parenthèse, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, une accumulation, une assemblée se dilatant parfois en un innombrable. Et en quoi sommes-nous face à un nous et non à un agrégat de singularités étanches, circonscrites, archipels où chaque unité se distingue de celle qu'il côtoie, sans produire pour autant de sujets collectifs, sans pour autant produire de nous ? En quoi le roman est-il au fond un espace si magique qu'il pourrait résorber les deux pronoms singuliers qui en règlent le dispositif en un seul, les subsumer en ce nous de la première personne du pluriel ? Quels sont finalement ses propriétés physiques, chimiques, dynamiques, qui sont les siennes et qui pourraient autoriser cette opération. Alors, je disais plus haut à propos du lecteur qu'avant le texte, il n'avait pas d'existence en tant que lecteur. Que c'était le texte littéraire, la fiction donc, dont je parle ici, qui le faisait exister comme son autre, comme cet autre qui lui manque pour exister lui, et être vivant. Autrement dit, le jeu qui écrit fait exister le jeu qui lit comme cet autre qui lui manque pour exister, et par retour infini, par retour délicat ou explosif, par retour lent ou rapide, par éclats successifs et parfois dans un étourdissement, c'est le jeu qui lit qui fait exister le jeu qui écrit comme cet autre qui lui manque pour exister. Là est la volte inaugurale de la littérature, ce mouvement, cette spirale, cette double hélice. Et je crois que simplement, l'une des propriétés de la littérature est d'inventer cet autre, de l'inventer infiniment, d'inventer cet autre, cette singularité déployée en multitude et qui lui manque pour exister. Je crois que l'une de ses propriétés, c'est de créer cette volte, c'est de créer cette double hélice. Alors, j'aime l'idée que, mystérieusement, cette double hélice soit, bien entendu, la forme qui structure l'ADN en nous. Autrement dit, que ce soit sous cette forme de double hélice que se constitue ce qui fait que je suis qui je suis, que je me distingue des milliards d'êtres humains, mais précisément parce qu'elle m'en distingue, elle ne prend son sens qu'en me replaçant parmi eux. Alors partant de cette image, je me suis demandé quelle serait la double hélice inventée par la littérature, la structure en mouvement, qui fait qu'un texte littéraire distingue son auteur tout en le replaçant parmi les hommes, ne le distingue précisément que parce qu'il le replace parmi les hommes, distingue son lecteur tout en le replaçant parmi les hommes et ne le distingue précisément que parce qu'il le replace parmi les hommes. Et je me suis demandé si cette double hélice n'était pas le moteur interne de toute fiction, sa force de propulsion, son action, la dynamique opérant par ses rotations successives, par l'alternance de ses forces inverses, centrifuge et centripète, par cette espèce de soulèvement qu'elle permet, par cet envol qu'elle autorise, par ces stagnations qu'elle permet, y compris dans son déploiement, qu'il soit narratif ou non, en flux ou fragmentaire. Et si je me suis posé ces questions, c'est peut-être aussi que j'ai vu dans cette volte, dans la spirale qui se déplie en continu dans la langue, dans ce mouvement faisant danser, on pense à hier soir, la danse de Nietzsche, faisant danser le moi et l'autre, première volte, l'étranger et la communauté, seconde volte, soit le je et le nous, j'ai vu la joie du roman. J'ai vu la mienne. Cette propriété de la littérature à créer cet autre qui lui manque s'expérimente, c'est une voie possible, mais pas la seule, dans sa capacité à créer des personnages, les personnages de romans, ces fameuses entités qui demeurent pour moi des entités éminemment complexes. L'une des propriétés de la littérature est de faire advenir la foule qui grouille en chacun de nous, qui grouille en moi, que j'héberge ou qui me peuple, c'est la première volte. Je pense, parfois je m'illusionne sûrement, que si j'écris des fictions qui mettent en place des collectifs, des bandes adolescentes qui se rassemblent pour plonger depuis des rochers, des ouvriers, des ingénieurs qui convergent vers un chantier pour y construire ensemble un pont, des familles, des infirmiers, des transplanteurs, qui travaillent ensemble à transplanter un cœur, c'est d'abord pour me débarrasser de ce jeu, ou plutôt pour me placer derrière, pour placer ce jeu derrière, le rendre invisible, indétectable, intraçable, échappant par là même à celle que je suis et trouvant ici la possibilité de me réinventer, de migrer vers l'autre, vers tous les autres, de me placer parmi eux, d'être toutes les femmes possibles et tous les hommes aussi, et ces adolescents, et ces ouvriers, et ces infirmiers, et ces transplanteurs, et ces familles, et ces adolescents surfeurs. Les êtres à la fois simultanément et ensemble, dans un même jeu de vitesse, dans un même espace, et plus que tout encore, dans un même paysage. Ce sont des livres, des romans, sans personnage principal, comme on aime ordonner les figures du roman, les personnages principaux, les personnages secondaires, etc. Certes, il y a des figures majeures, mais au fond, dans ces livres dont je parle, chaque personnage surgit dans la situation qui commande sa présence, et aucun d'eux ne prend le pouvoir dans le roman. Aucun ne passe en force, même si je peux, dans le temps de l'écriture, éprouver des tensions internes. Je me demande parfois si je dois maintenir ce collectif comme collectif ou suivre la piste ouverte par l'un des personnages et prendre la tangente. C'est précisément pour moi la description, et là je me déplace vers mon travail, mes romans ne sont pas autre chose que des descriptions. C'est précisément la description, l'animation, la saisie de ces collectifs, de ces communautés qui constituent la matière littéraire de mes romans. C'est leur physiologie, c'est leur mouvement interne, c'est leur dynamique propre. Car les collectifs, pour moi, ne sont jamais des entités abstraites, ectoplasmiques. Ce ne sont jamais des puissances de dissolution ou d'effacement des individus. Au contraire, il se présente toujours comme une somme plastique d'individus, et chaque individu incarne, représente la communauté tout entière. Ces communautés, ces bandes adolescentes, ces ouvriers, ces soignants, ces chirurgiens, ces familles, ces communautés, elles ont surtout une qualité essentielle qui les rend désirables à mes yeux. Elles permettent tout simplement que quelque chose soit possible entre les individus. Ces communautés, elles permettent tout simplement que quelque chose advienne, travailler, jouer, s'aimer, et que ce soit possible entre les individus qui composent cette communauté. Donc, il y a un « nous » qui s'instaure, et un « moi » et un « je » faillé, diffracté en chacun d'eux, éclaté, disséminé dans leur corps multiple, dans leur trajectoire inverse, dans leurs gestes. L'écriture comme une cristallographie, comme un instrument puissant inventé pour étudier la matière, qu'elle soit inerte ou organique, la littérature comme une matière cristalline, le faisceau de rayons X qui la scrute, d'une très courte longueur d'onde, rebondissant dans toutes les directions, en fractal. Et je précise ici que c'est précisément en analysant un cliché de diffraction que Francis Crick et James Watson ont pu établir en 1953 la structure en double hélice du support de nos informations génétiques, de notre ADN. Et permettant, bien sûr, de percevoir l'obscurité. L'obscurité, je le précise, n'est, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas une notion privative, mais bien une perception. Permettant aussi cette écriture comme cristallographie de percevoir ce fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile où nous baignons tous et qui nous éclaire. Mais alors dans le même temps exactement et dans le même temps tout aussi absolument, j'ai l'intuition que ces fictions, je les construis, je les écris pour y être. Et au contraire, pour qu'elle me désigne en retour, qu'elle fabrique des sortes d'autoportraits, en tout cas qu'elles agissent comme mon nom, et que y être présente, visible, y prendre la parole en tant que je, et en ce lieu de mon livre, comme en peu d'autres lieux de ma vie, c'est là tout le chemin, c'est l'objet même de ces fictions. Être là. Être à la table, au banquet. Cette première volte de la fiction enchasse donc, dans une même pulsation, le « je » et le « nous ». Elle instaure une tension circulant du mouvement à la racine, entre le nomadisme et la mémoire, entre ce qui s'évanouit et ce qui fait empreinte. C'est tournoyant comme la jupe de la gitane, ce sont les étoiles dans le ciel d'été, ce sont les lignes de fuite qui débrident l'horizon, leur lumière qui déboucle le temps, frayant dans le clair ou dans l'obscur, dans la douceur ou dans le chaos, dans l'archaïque et dans le présent, la volte égare tout autant qu'elle éclaire. Elle peut même devenir bruissante, syncopée, chamanique, puisqu'elle regarde en nous ce qui fait volte, je veux dire ce qui en nous fait retour, ce qui nous retourne. Et chamanique aussi parce qu'il ne s'agit pas que je parle au nom de la communauté, mais plutôt que le nous parle à travers lui, à travers ce je, que ce je ne parle pas au nom de la communauté, mais plutôt qu'il soit traversé par elle, qu'il soit congestionné par elle, qu'il soit mis sous pression par elle, d'où parfois ce piétinement intérieur que je peux ressentir à l'aube d'un texte, comme quelque chose, comme une foule qui me congestionne, comme une foule qui me met sous pression. Alors il y a une seconde volte qui est différente, qui est plus dilatée, qui n'est pas celle précise du jeu au nous, mais cette seconde volte et celle qui s'opère de l'étranger à la communauté. Avant tout, je voudrais dire que je ne me reconnais pas dans le discours qui revendique la marge comme le lieu d'élection, le lieu du désir privilégié de l'écrivain. Pour moi, qu'il y porte le regard ou s'y place pour regarder, c'est d'abord une situation de langage. Et c'est en tant que situation de langage que la marge ou le sens intéresse. C'est une place tout aussi intéressante qu'une autre, tout aussi juste, tout aussi efficace. Mais je ne crois pas que l'écriture puisse mieux advenir de l'étranger, de la marge, que depuis l'intérieur, ni même qu'il faille cultiver une position, voire une posture marginale, pour se doter d'un point de vue plus juste, plus fort, plus sensible, plus politique. Et il me semble que la fiction, chez moi, manifeste plutôt le désir inverse, celui de rallier le centre, de rejoindre le cœur du monde, le cœur des communautés, qui est, au fond, logé dans mon sujet, qui est le cœur de mon sujet. Et c'est en cela qu'elle manifeste d'abord, dès son amorce, cette écriture, un désir d'étranger. J'aime que ce mot désigne un espace, autant qu'il caractérise un être, un objet ou une langue. Étranger signifie du dehors, extérieur, qui n'est pas de la famille, qui n'est pas du pays. C'est un mot qui, dans mon travail, joue comme impulsion, comme élan, comme si écrire revenait à aller à l'étranger, autrement dit à rallier un monde, un territoire que je ne connais pas encore, où je serais d'abord étrangère. Et en cela, ce mot étranger induit immédiatement l'idée de mouvement, c'est pour ça qu'il m'intéresse surtout. Je crois que mon désir d'écrire ne peut s'enclencher que parce que j'envisage le livre à venir comme un objet ou un lieu qui m'est étranger. Et c'est presque dans la certitude que je ne le possède pas, dans la méconnaissance que j'en ai, dans cette pauvreté qui est la mienne au moment où l'écriture se met en branle, que l'écriture peut se mettre en branle. La notion d'étranger intervient alors de manière tangible dans le motif du livre, dans l'idée que le sujet de mon travail me soit étranger. Par exemple, construire un pont ou transplanter un cœur. Je pense souvent que j'écris non pas pour retrouver quelque chose que j'ai perdu, mais pour connaître quelque chose que je ne sais pas encore ou que je ne sais pas savoir et qui fait retour en moi. Donc, il s'agit bien ici de faire une volte, un tour, de s'écarter, de faire un pas de côté, un pas un seul, mais celui-là me déporte dans un monde inconnu et habité, un monde qui est notre monde, et pourtant absolument autre. L'étranger, ce désir d'étranger qui est présent au seuil du livre dès son amorce, dès les premières songeries, draine l'idée de frontière et de rivage, et c'est une valeur immédiatement politique. L'étranger est une des figures essentielles de l'altérité. Mais je crois que là où étranger trouve son écho le plus fort, c'est dans la langue, dans l'écriture. Et d'une certaine manière, c'est vrai que pour moi, écrire revient à aller à l'étranger, c'est-à-dire à rallier ce territoire dont je ne parle pas la langue, si bien que j'ai le sentiment de traduire ma propre langue à chaque livre, d'aller me placer dans une langue étrangère que je manifesterais ou inventerais, comme on mettrait à jour quelque chose qui gisait là, probablement désactivé, désaffecté, comme on invente une découverte archéologique, par exemple. Or, il se trouve que ce désir d'étranger me porte, par volte, vers d'autres zones du langage, vers d'autres zones qui sont celles de la documentation, qui sont celles de l'enquête, qui sont les zones d'un langage commun. Dans Naissance d'un pont et Réparer les vivants, l'enjeu tenait dans l'élaboration d'une écriture capable de signifier la tension qu'un pont peut incarner dans un espace partagé, capable de concentrer l'enjeu que constitue la migration d'un cœur, du corps d'un jeune surfeur au corps d'une traductrice. Cette écriture prenait là encore, et comme toujours, la forme d'une longue description. Elle s'attache, elle tente, elle travaille à élaborer une phrase courte en éclats sensoriels, à assumer une phrase longue, conçue comme une volte encore, qui ramasserait la situation en une seule séquence, puis à relancer l'action pour instaurer un espace et en préciser la matière, la géomorphologie, le climat, la lumière, pour y plonger des personnages, y faire entendre leur voix et tout ce qui bruit entre elles pour en capter la vie. Et plan séquence, travelling panoramique ou lasso, le lasso de la volte, en donner une expérience tangible. La phrase décrit sans jamais tenir de discours, elle progresse au ras du sol, elle déplie la somme de gestes, la dépense, la sueur et le danger. Elle révèle la fatigue, elle dépose, elle montre, elle désigne, elle absorbe et transmet, elle s'acclimate, elle affecte, elle peut alors toucher les vitesses du réel, ses couleurs, son relief, elle peut répercuter la scansion, je dirais finalement qu'elle prend la texture du monde, non comme imitation, mais comme invention. Et je crois que c'est d'abord là, dans cette description, travaillée comme empathie, que réside la politique du roman qui fait signe au collectif, qui fait signe au nous. C'est là, dans cette description travaillée comme empathie, que s'instaure possiblement une communauté. Ce parti pris descriptif, où se loge l'engagement du texte, se joue dans une démarche de précision, elle-même née de l'enquête. Précision du protocole, précision des techniques, précision de la langue, de fait. La précision instaure un programme. C'est pour moi une forme d'éthique du regard quand l'imprécision, de mon point de vue, aurait tendance à faire filtre, à cantonner la phrase au flou des possibles, qui est aussi un masque de la paresse. Mais plus encore, la quête de précision agit sur la langue de l'intérieur. Elle est en soi une histoire de conquête. Et c'est vrai que j'aime cette idée que toute fiction littéraire se tient dans une aventure langagière encore inédite pour moi. C'est pourquoi l'épopée d'un chantier ou celle d'une transplantation reconduisent-elles une autre épopée, celle de la pénétration et de la découverte de continents de langage que le roman délaisse ou a délaissé et qui sont d'abord ceux de la technique, ceux des langues du travail, ces langues communes, désaffectées, désactivées, qui renvoient à des espaces communs, ces langues qui ne s'écrivent pas à la première personne du singulier, ces langues qui ont expulsé d'elles le jeu. La volte de l'étranger à la communauté s'engagerait par exemple dans la collecte d'un lexique technique, puis dans son importation dans la phrase du roman. Elle travaillerait les effets de réel en même temps qu'elle en fait monter la poésie. Et je crois alors que tout revient simplement à privatiser des territoires de langage par l'étonnement, la naïveté, la curiosité, l'imaginaire, ou au contraire, à déprivatiser ces territoires pour les investir dans l'intimité même du texte. Polyphonique, la fiction fraye alors dans le multiple, elle fait voir la multitude. Mais plus encore, j'ai expérimenté que loin d'écraser le roman, de l'assigner au réel, de le domestiquer, la précision documentaire, dans son esprit d'exactitude, dans son aptitude à circonscrire un mot, est au contraire ce qui permet de débrider la fiction, d'en faire jaillir la fantaisie, d'en tracer la métamorphose, d'en dessiner les voltes. C'est polypropylène qui éclaire la phrase de l'intérieur, c'est électroencéphalogramme qui la résorbe, c'est Glasgow 3 qui désigne la nature cryptée du langage médical, faisant apparaître pour moi une ville d'Écosse où l'on joue au foot sous la pluie. L'hyperprécision documentaire n'est jamais un gage de l'esprit de sérieux de l'écrivain enquêteur. L'hyperprécision documentaire n'est jamais un gage que l'auteur donne au lecteur. Regardez de quoi je parle, regardez, je me suis informée. L'hyperprécision documentaire, c'est d'abord et avant tout un activateur d'imaginaire. C'est avant tout un moteur de fiction. Je voudrais faire une pause pour vous lire à cet instant de mon propos des trois courts extraits d'un texte qui est important pour moi, mais pas seulement pour moi, qui est important pour Mathieu Riboulet, qui en a parlé samedi, qui est important pour Mélanie Traversier, qui l'a lu, qui a invité son auteur à Lille, qui est important pour Anne-Marie Carlier, enfin, qui est important pour nous, qui est un texte qui s'appelle « Le temps matériel » de Giorgio Vasta. Et je voudrais vous lire ce texte parce que trois extraits de ce texte parce que il s'agit de trois adolescents de 11 ans qui pensent d'ailleurs que avoir 11 ans les rend invisibles et que ces adolescents vivent à Palerme en 1978, l'année de l'assassinat d'Aldo Moro. Ces trois adolescents se donnent des noms, Nimbe, Rayon et Envol, et ils vont filtrer le réel à travers à la fois l'hyperprécision d'une langue qui est celle de la politique, qui est celle de la révolution, tout en la résorbant dans l'imaginaire qui est celui de l'enfance. C'est-à-dire qu'il me semble que Giorgio Vasta, dans ce texte « Le temps matériel », donne un exemple de ce qui est pour moi exactement la double volte. La communauté qui s'exprime à travers des jeux et le monde qui converge dans un mot. Ça tourne de cette manière. Donc le narrateur, je, s'appelle Nimbe. Je vais vous lire le passage très important où ces trois adolescents, pour communiquer entre eux, inventent une langue qu'ils appellent l'alphamuet. L'alphamuet dont les figures, qui est une langue silencieuse, qui est une forme de langue des signes, dont les figures sont dessinées à la fin du livre. Je commence à expliquer ce qu'est l'organisation sociale des abeilles, les castes, les rôles, le fait que chaque abeille soit moins un individu que la partie d'un tout plus vaste. Comme la fourmilière pour les fourmis, la termitière pour les termites, l'animal est la fourmilière, la termitière. À la limite, chaque animal est comme une cellule, nécessaire mais privée de nom. À certains égards, c'est toujours un individu, mais on ne peut l'individualiser. Comme nous, résume Scarmiglia en posant le livre sur la table, nous n'avons pas de papier d'identité, c'est comme si nous n'existions pas. Nous sommes comme les termites, nous sommes comme les abeilles, des cellules anonymes. Boca hoche la tête en signe d'approbation. Et moi, je reprends. Mais il n'y a pas que ça. Les abeilles passent leur temps à voler pour former des codes et les déchiffrer. Nous les observons et nous ne comprenons rien. Nous ne voyons que des petits points jaunes qui s'agitent. Mais si nous réussissions à lire les lignes invisibles qu'elles tracent, nous saurions ce qu'elles sont en train de se dire. Voyons si j'ai compris, dit Boca, nous prenons une forme célèbre que nous laissons extérieurement intacte, mais dont nous modifions le contenu. C'est exact ? Exact, je confirme. Nous prenons des postures idiotes que tout le monde connaît et nous en faisons des messages codés. Le matin du 17 juillet, avant d'aller à la plage, je m'enferme dans la chambre et je m'entraîne. Malgré les difficultés, la côte cassée me fait encore mal. J'en ai besoin pour sentir la proximité de mon corps. Quand j'en ai terminé, j'ai de la sueur qui coule autour des yeux, je respire fort, l'impression que les choses ont disparu. Sur la plage, nous nous installons à l'ombre, entre la dernière rangée de cabines et le bord de l'eau, sur le sable humide et boueux. Boca annonce que dans la nuit, il a pensé à un nom pour notre alphabet. Un nom simple, mais qui lui semble adapté. Alpha muet, parce qu'il est fait de gestes silencieux. Ça nous plaît. Nous décidons que c'est d'accord. Chacun a apporté les mots qui, selon lui, doivent figurer dans l'alpha muet. Pour son premier mot, prendre, Scarmiglia a pensé à un film qu'il a vu au cinéma avec ses frères. Il était interdit au moins de 13 ans, mais on l'a tout de même laissé entrer. Il s'intitule « Le dernier monde cannibale ». On ne dirait pas, mais c'est un film italien, l'histoire d'un homme capturé par des cannibales. À un certain point, l'homme attire des enfants anthropophages jusqu'à sa prison. Il tend la main vers le visage de l'un d'entre eux et la retire, le bout du pouce entre l'index et le médius, comme s'il lui avait volé son nez. trouver ce petit jeu dans un film qui montre des décapitations et des animaux écorchés vifs, des bras humains dévorés et des alligators qui rampent au milieu de la végétation, relève de ce que Scarmiglia appelle l'italianisation du vivant. Ils ont 11 ans. Hein. L'italianisation du vivant. Ce besoin national de traduire chaque chose en une forme familière, condamnant tout à devenir provincial. L'Italie est une grande machine métabolique en mesure de rendre plausible tout et n'importe quoi, il explique. Transformer la forêt amazonienne en salle à manger domestique, l'enfant anthropophage en camarade de jeu au jardin public. De même, dans le même film, à n'en pas douter, un alligator a un paquet de MS dans le ventre et une grille de Tocco Calcio dépasse du string d'un cannibale. Quand nous nous mettons à réfléchir à la posture correspondant au deuxième mot de Scarmiglia, qui est « le bien », je propose qu'on se serve du comte Oliver. Ils ne voient pas car ils ne lisent pas Alan Ford. Alors je prends une position ferme, recueillie, les bras légèrement en avant, les mains posées l'une sur l'autre au sommet d'une canne invisible. Celle qu'on adopte pour écouter sereinement, immerger dans le bien, écouter le bien. Nous ne savons pas ce qu'il signifie, mais nous voulons qu'il existe. Ensuite, nous arrivons à mourir. C'est le troisième mot. Couché sur le sable, Scarmiglia se recroqueville sur le flanc, un bras replié et une main abandonnée contre la hanche, la tête à peine inclinée à gauche. Aldo Moro, qui meurt, est né dans l'utérus métallique de la quaterelle. En l'espace de 2 mois, nous avons vu cette photo si souvent qu'elle est devenue à nos yeux celle de tous les morts. Se recroqueviller ainsi voudra donc dire mourir. Mon premier mot à moi est désir. Il est proche du bien mais légèrement différent. Il est tension vers le bien. Nous pensons que pour représenter ce mot, il faut quelque chose de plein, une posture sphérique. Non, non, intervient Boca en se levant, le désir n'est pas rond, il est tout cassé. Regardez, il fait. Il se penche en avant et se touche successivement le genou droit avec la paume de la main gauche, puis le genou gauche avec celle de la droite, en remontant petit à petit, en rythme, et en se frappant de cette façon les hanches, les épaules et le front, avant de lever les bras vers le haut, telle une fontaine, pour retrouver enfin sa posture initiale. La plage s'est figée. Tout le monde a les yeux fixés sur Boca qui imite Raffaella Carrà dansant le Tuca Tuca. Pour être sûr que nous comprenions, Boca répète la séquence en remuant cette fois les pieds et le bassin en rythme. Autour de nous, les gens sont de plus en plus troublés. Scarmiglia éclate de rire. « Vous avez vu ?» il demande. « Ils ne comprennent pas. » Ils sentent bien qu'il y a quelque chose de familier, mais ils n'arrivent pas à l'identifier. « Et c'est un problème ?» demande Boca. « Absolument pas, » répond Scarmiglia. « C'est ce que nous voulons. » Nous arrivons à l'arrêt. Le bus n'est pas encore là. Nous nous asseyons sur un muret, derrière nous il y a un terrain vague qui sert de parking, quelques voitures de mauvaises herbes. Scarmiglia renifle, il a une trace noire sur le cou, de la graisse de moteur ou une première ombre du soir collée contre sa gorge. « Elle s'appelle Wimbo », il dit, en regardant droit dans les yeux. « Ça vient d'Amérique centrale, des Antilles, je crois. Ça veut dire « vent arc-en-ciel ». Ici aussi, dans cette rue, comme dans toutes celles de Palerme, l'asphalte est partout fissuré. Ce sont les lacérations d'un tissu noir, les failles à travers lesquelles le mal s'insinue dans le monde. À cet instant, ma tête aussi est noire, couverte de lacérations. Y pénètrent les bruits des voitures, les cris des enfants, les aboiements des chiens errants qui courent en meute vers la mer, les mots de Scarmiglia qui font exister la petite fille créole, qui la change en réalité en lui donnant un nom et une origine. La biographie qui pèse sur la créature. Le mot « Wimbo » qui ne ressemble même pas à un mot, on dirait un son pris du dehors, à la nature, la façon dont l'eau coule dans la nuit, dont l'air se contracte lorsqu'on le traverse. Il contient le mot « fouillis », le mot « bon », le mot « nimbe ». L'espace d'un instant, la petite fille créole est la lumière de mon nimbe, une lumière plus sombre et intense, un jaune clair ponctué de corpuscules. Le mot « anti » m'entre lui aussi dans la tête et forme une image sporadique, désagrégée. Je sais que ce sont de petites îles sur la carte, on dirait un exanthème. La petite fille créole, Wimbo, naît d'une maladie, d'une dispersion, du fourmillement océanique des îles. En revanche, Le vent arc-en-ciel, je ne le connais pas. Je connais les deux mots séparés. Le vent me plaît, l'autre, arc-en-ciel, moins. Il me semble présomptueux, excessif. Il me fait penser aux dessins d'enfants, aux bandes de couleurs courbes et impressives qui bavent les unes sur les autres. Vent arc-en-ciel, c'est le vent de l'arc-en-ciel ou l'arc-en-ciel du vent. Et au bout de l'arc-en-ciel, il y a la casserole contenant les pièces d'or. Dans le vent vivent les abeilles. Les abeilles sont dorées. Une casserole pleine d'abeilles, une pièce d'or avec un dard. Mes parents connaissent les siens, dit encore Scarmiglia. Elle a été adoptée, ils l'ont emmenée en Italie. D'autres mots qui se glissent dans les failles de ma tête. Les mots pulvérisés à l'intérieur des phrases qui lui donnent une existence et une histoire. Les syllabes qui m'entrent à l'intérieur en se mêlant au pollen et à la cendre. La contagion m'est parvenue par la voix de Scarmiglia. Savoir que « petite fille créole » était un nom insuffisant, qu'imaginer une créature séparée de tout le reste était irréel, que Wimbo existe, agit, qu'elle est présente. Le bus arrive, les gens montent. Du dehors, je vois les barres horizontales et verticales, les mains qui les saisissent. Carmilia prend ses affaires et se lève, je reste assis, il se tourne vers moi, dos au bus, le moteur qui vrombit et le pot d'échappement qui dégage une fumée noirâtre. « Elle est muette », il dit. Puis il me salue de la main, monte sur le marchepied et se perd entre les corps. Les portes pneumatiques se referment, l'autobus démarre et je reste seule. Sous moi, le muret est un minéral comme tous les minéraux, il est muet. L'asphalte fissuré est muet. L'arbre, le lampadaire. Le pollen, la cendre. La petite fille créole est muette. Aujourd'hui, le 17 juillet 1978, c'est son anniversaire. Son nouveau père, sa nouvelle mère. Ils casseront sa tête, sa peau foncée. Ils lui donneront ses cadeaux. Il y aura les cousins, une nappe couleur crème. Peut-être un jardin, une maison de campagne. La petite fille créole ouvrira les cadeaux, les examinera calmement, retournera les boîtes pour lire les instructions, touchera doucement des yeux en porcelaine, des cheveux en nylon. Puis elle en touchera les siens de cheveux, et sur le dos de sa main, là où elle a une petite tache claire, elle sentira la tiédeur, la douceur. Sans raison, ses parents penseront qu'ils ne sont pas à la hauteur. La mère continuera à lisser les plis de la nappe, le père prendra des photos. Peut-être qu'ils lui poseront des questions, les cousins et eux. Elle leur répondra par des sourires pondérés. Puis on apportera le gâteau, il sera grand, et contiendra tous les gâteaux du monde, les gâteaux du temps perdu, et des millions de bougies, une pour chacun de ses souffles. Et Wimbo placera toute son existence dans sa respiration. Elle soufflera sur le monde l'infection du silence. Les flamèches qui coiffent les cimes roses et bleues trembleront et s'enrouleront sur elles-mêmes. Et autour, il y aura une couronne de têtes et de voix qui appellent et encouragent, mais pas de son, aucun son, jamais de son. Et après un nouveau souffle, les flamèches vacilleront. Wimbo aura un an de plus et saura tout. Son sang s'écoulera, calme et rouge, si rouge dans son corps et partout. Et moi, je serai encore là, dans ma vie minérale, en compagnie des mots. Je reprends. Je reprends à l'instant où je voulais déplier le rôle de l'enquête documentaire dans la création du texte et dire, en gros, pourquoi l'enquête documentaire participe pleinement de la création du texte, de sa fabrique interne et de sa machinerie, pourquoi elle en compose l'écriture, pourquoi finalement elle fonde ce qui serait une sorte d'alpha muet de langue commune, pourquoi il ne s'agit jamais de faire une recherche afin d'amasser un stock de données dont la fiction serait le traitement, mais de tisser la démarche documentaire, la matière commune, dans le cours même de la narration. De même, il ne s'agit pas de trouver des informations qui seraient ensuite injectées dans le texte, mais bien d'intensifier le rapport que je noue avec mon propre travail, d'en conserver la densité organique. De fait, la moisson documentaire excède souvent la stricte nécessité de la narration, mais c'est dans cette profusion, dans les digressions qu'elle déclenche, dans les associations d'idées, les fantasmes, les détails qu'elle fait surgir, que la phrase du roman s'élabore. J'ai ainsi le sentiment qu'à partir du moment où j'entre dans le RER pour rencontrer un ingénieur du BTP à la Défense ou pour gagner l'agence de la biomédecine à Saint-Denis, où j'ai rendez-vous avec un médecin du pôle national de répartition des greffons, quand je piste tel livre ou tel article, quand je transcris tel entretien, quand je vais voir tel film que je sais connecter, même très faiblement connecté à mon travail, je suis en train d'écrire. Je suis déjà en train d'écrire ce livre. C'est dans ce mouvement que le livre invente son propre matériau et qu'il métamorphose de l'étranger en un langage commun. et qu'il métamorphose l'étranger présent à l'amorce de ce livre en un langage commun. Cette double hélice du roman, après qu'on l'a regardée, après qu'on a regardé à quoi elle pouvait peut-être ressembler, désigne au fond toujours une double prise, une double connexion, un double branchement de la fiction littéraire. Une prise qui opérerait sur l'actualité de chaque jeu, qu'il soit celui de l'auteur ou du lecteur. Une prise dans son espace intime. Et une autre prise qui est une prise dans l'actualité de la communauté. Ce qui peut donner lieu à des interrogations qui seraient comment vivre ensemble de part et d'autre de la rivière. Ou encore, la loi peut-elle dire quand intervient la mort ? Cette spirale, je la trouve d'une grande puissance et d'une grande force. Elle aimante et elle rejette. Elle aspire et elle expulse. Elle est aussi, par le fait même de ce pouvoir, d'une très grande fragilité. Ce que peut la fiction littéraire, dans sa gravitation singulière, c'est peut-être forer assez profond pour atteindre ce que Judith Chandler, dans un article intitulé « La pauvreté enchantée », appelle « les formes secrètes des vies ». Ce qu'elle peut, la fiction littéraire, dans sa gravitation singulière, dans cette double hélice qu'elle met en place, dans sa fonction de fabulation sacrée, ce qu'elle peut, c'est agir à l'instar d'un rituel élaboré pour que nous puissions continuer à faire tournoyer un présent que nous habitons en commun, tout en lui donnant rendez-vous dans le substrat archaïque du langage, celui qui en appelle au mythe. Car la double hélice, elle fait entendre son chant, non pas le bruit du moteur, mais le froissement de la jupe de la gitane quand elle danse, quand elle tourne, du jeu à nous, de nous à jeu. Et ce chant, que je distingue ici du lyrisme, est peut-être pour moi le son du roman. Car écrivant, il s'agit toujours de faire entendre un chant, autrement dit de faire affleurer dans la langue un temps où l'épopée était un chant nomade, de faire appel à ce qui subsiste dans la littérature d'un temps où le livre n'existait que sous la forme d'un chant. Ce chant, c'est ce qui s'élève en nous au cours de la lecture, c'est ce qui subsiste en nous une fois le livre refermé. Ce chant, c'est ce qui relève de l'inscription du texte dans le temps, de sa présence au monde, de sa permanence dans nos mémoires. Ce chant, c'est ce qui s'entend au cours de cette trajectoire parabolique qui se boucle dans le temps d'une écriture, qui se boucle dans le temps d'une lecture. C'est une vibration, un cri, une rumeur, une mélodie. C'est ce qui peut être murmuré pour soi seul et chanté en chœur. Le chant d'un livre, c'est son aura. Mais plus encore, et plus que tout, ce que peut faire la fiction littéraire, c'est forer des trous dans la langue, la sonder pour mettre à jour, pour mettre au jour la zone de l'empathie du texte, ce lieu du toucher, ce lieu du baiser, ce lieu où les jeux en présence dans le langage se parlent comme ils ne peuvent jamais se parler, comme ils ne peuvent se parler hors du livre, hors de la fiction, que l'on peut simplement nommer à cet instant le lieu de l'amour. La fiction littéraire peut être qu'elle peut forer des trous dans la langue et, ce faisant, mettre au jour un lieu possible de l'amour, rallié enfin, rallié à bout de force ou dans un état de fièvre intense. C'est le moment épiphanique du surgissement de la communauté que j'envisage comme l'une de ces nostrations dont nous a parlé Jean-Christophe Bailly, éphémères, mouvantes, mobiles, insularisées, mais liées entre elles par la fluidité du mouvement, jointes par les cercles des ondes, par ces voltes, ces nostrations qui déjouent l'identité racinaire pour devenir archipel corallien, qui privilégie ce qu'il y a entre les êtres, à l'intimité de la masse. car, ainsi que l'a écrit Jean Houry, qui est un médecin psychiatre et le fondateur de la clinique de la Borde, être au plus proche, ce n'est pas toucher. La plus grande proximité est d'assumer le lointain de l'autre. C'est ce lieu qui, par son existence même, déjoue toute forme d'assignation de la littérature qui, elle, doit rester sauvage. Je vous remercie.